Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Gaël Giraud, l'économiste en chef de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonjour Gaël Giraud.
Bonjour.
Gaël Giraud, outre cette fonction éminente à l'AFD, vous êtes directeur de recherche au CNRS, où vos travaux portent sur les mesures du développement, la finance et les questions énergétiques, énergie et prospérité. C'est d'ailleurs le titre d'une chaire que vous co-dirigez sous la tutelle de l'École Polytechnique et de l'École Normale Supérieure. Comme si cela ne suffisait pas, vous êtes également professeur à l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Et j'ajoute que vous êtes en plus, ou peut-être au départ, prêtre, que vous appartenez à la Compagnie de Jésus. Vous êtes donc jésuite. Est-ce que le fait d'avoir cet engagement religieux très fort, c'est le moins qu'on puisse dire, oriente votre activité professionnelle?
Alors, elle ne l'oriente pas sur les décisions techniques. Il n'y a pas une science catholique, il n'y a pas une économie catholique. En revanche, elle l'oriente sur le fond de l'espérance que je continue d'entretenir, malgré beaucoup de signaux négatifs, dans le fait que l'humanité est capable de faire des progrès considérables.
Vous y contribuez?
On essaye de faire ce qu'on peut à l'Agence française de développement et je fais ma part du colibri dans la contribution de l'AFD à l'amélioration des conditions de vie, notamment des Africains.
Ma part du colibri, ça veut dire ?
La part du colibri, c'est une allusion à Pierre Rabhi. C'est l'idée, vous savez, il y a un grand incendie de brousse dans la forêt et puis il y a un petit oiseau, le colibri, qui va prendre un tout petit peu d'eau dans son bec pour la verser au-dessus des flammes. Alors les animaux qui fuient la jungle lui demandent « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Et il dit « Voilà, moi je fais ma part, j'essaie d'éteindre un tout petit peu l'incendie. »
Donc vous êtes le colibri.
Voilà, comme tout le monde d'ailleurs, comme nous tous.
Alors, jeune homme, vous avez passé 2 ans au Tchad, vous étiez à Sarre, dans le sud du pays, et vous y avez enseigné les maths. Vous avez appris quoi là-bas?
Ah, j'ai appris beaucoup de choses, ça a été un bouleversement complet dans mon existence. Je venais de terminer ma thèse de mathématiques appliquées, j'ai été envoyé comme prof de maths et de physique dans le collège Saint-Charles-Luanga, qui est un collège jésuite, dans la petite ville de Sarre. Et j'ai enseigné essentiellement à des enfants dont les parents n'avaient pas l'électricité dans la case, dont la plupart des parents ne savaient pas lire. Alors j'y ai découvert à la fois, on pourrait dire, l'héritage colonial, puisque les programmes que j'enseignais, c'était les vieux programmes français des années 70. Donc j'ai fait faire des cours sur la cinématique du skieur, par exemple, vous voyez, au sud du Tchad, en terminale. Mais j'ai découvert aussi une force de vie extraordinaire. Donc j'ai été envoyé notamment travailler dans une prison, dans la maison d'arrêt de Sarre, pour essayer de sauver les femmes. Parce que dans cette prison, les femmes et les hommes n'étaient pas séparés. Et donc, malheureusement, les femmes étaient violées toutes les nuits par les prisonniers, tombées enceintes dans la prison, accouchées dans la prison, et le gamin mourait au bout de quelques heures du fait des conditions d'hygiène déplorables qui sévissaient dans la prison. Donc, j'ai essayé de mettre en œuvre beaucoup de stratagèmes pour sauver ces femmes, les tirer de la prison, les séparer des hommes, voilà, avec plus ou moins de succès. J'ai fini par risquer moi-même de tomber dans la prison.
Pourquoi ?
Parce que le procureur de la République de l'époque, hein, c'était il y a 20 ans, était assez agacé de voir ce petit blanc qui se démenait beaucoup pour aider les femmes africaines dans cette prison. Donc, il m'a tendu plusieurs pièges. J'ai réussi à en esquiver quelques-uns, notamment grâce au préfet de l'époque, à qui je rends hommage, M. Galabendo. Et puis il y en a un autre, le dernier, dans lequel je suis tombé. Et donc il me menaçait de me traîner devant un tribunal, au terme duquel forcément j'aurais été condamné et probablement envoyé en prison. À moins qu'on ait demandé de moi une amende considérable que je n'étais pas du tout en mesure de payer.
Vous êtes retourné à Sarre depuis ?
J'y suis retourné parce qu'à l'époque j'ai également fondé un centre d'accueil pour les enfants de la rue, qui est tout petit, hein, qui accueille une quarantaine d'enfants, c'est du côté de Balimba, mais qui existe toujours, 20 ans après. Donc j'y suis retourné pour la première fois cette année.
Alors, au cours de cette émission, nous allons bien sûr évoquer votre rôle au sein de l'AFD, les idées que vous y impulsez et les débats autour de la France et de l'Afrique. Première question de Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Alors Gaël Giraud, vous êtes à ce micro alors que le président Macron vient d'effectuer sa première tournée en Afrique. Et lors de son discours à l'université de Ouagadougou, il a dit beaucoup de choses, dont une qui est qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Alors déjà d'une part, est-ce que vous allez dans le même sens de dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France? Et du coup, s'il n'y a plus de politique africaine, à quoi sert une institution comme l'AFD?
Alors c'est une bonne question. En fait, je crois que ce que le président de la République a voulu dire, c'est la France tourne délibérément la page de la France-Afrique. Vous savez, ce concept qui a été mis en œuvre, enfin, introduit par François-Xavier Verschave, et qui désignait les relations occultes que certains cabinets en France, le cabinet Focard, avaient pu entretenir avec certaines dictatures africaines. Ce que, je crois, le chef de l'État a voulu dire, c'est cette page-là est définitivement fermée et tournée. Et la preuve qu'il veut donner de cette bonne volonté de la France, c'est que il s'est engagé à ce que d'ici 5 ans, les documents relatifs au coup d'État burkinabé et à l'assassinat de Thomas Sankara soient rendus publics, soient déclassifiés. Donc ça, c'est une preuve de la détermination française, je crois, hein, de tourner définitivement cette page et d'avoir des relations normalisées, transparentes avec les chefs d'État africains. Alors après, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas une stratégie, une pensée, une politique globale de la France dans le monde et donc aussi vis-à-vis de son partenaire qui est le continent africain, stratégie globale dans laquelle évidemment s'inscrit l'Agence française de développement.
Ça veut dire que l'Afrique est un partenaire comme les autres, c'est ça ?
Alors vous savez, vous avez retenu certainement ce qu'a dit le président de la République, ça n'est ni un encombrant héritage, ni un partenaire comme les autres. C'est évidemment un partenaire privilégié parce qu'il va y avoir 500 millions de francophones en Afrique dans les années qui viennent et donc ça ne peut pas laisser la France indifférente parce que très certainement, le basculement de l'industrie qui actuellement est concentrée en Asie va se faire probablement sur le continent africain dans les décennies qui viennent, parce que la plus forte poussée démographique du monde aura lieu sur le continent africain dans les décennies qui viennent. Donc nous, Français qui sommes aux portes de la Méditerranée en face du continent, nous ne pouvons évidemment pas rester indifférents à ces transformations majeures qui vont affecter le continent.
Alors, lors de ce même discours de Ouagadougou auquel il était fait allusion à l'instant par Frédéric Maury, Emmanuel Macron a évoqué les mutations de l'aide française au développement. Écoutez ce qu'il disait.
L'aide publique au développement, nous savons parfois ce que ça peut dire, ce que cela a pu dire. Un argent qui va trop peu sur le terrain, trop peu justement aux jeunes ou aux ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, cette philosophie qui a été changée il y a plusieurs années en France sous l'autorité Jean-Michel Severino, dont je salue ici la présence, et qui est aujourd'hui porté à la tête de l'AFD, l'Agence française de développement, par Rémy Rioux, également à mes côtés, c'est cette transformation que nous avons conduite depuis plusieurs années, conduisant à avoir une politique du développement française plus proche du terrain, plus à l'écoute des besoins, travaillant de manière plus délocalisée, au contact des besoins. Nous devons passer une nouvelle étape, franchir encore un nouveau seuil. Je souhaite que nous réfléchissions dans les prochains mois, avec vous, peut-être à un nouveau nom, à une nouvelle philosophie, à des nouvelles modalités d'action, comme ce que nous avons su faire ensemble, il y a quelques semaines au Sahel, avec l'Alliance pour le Sahel, c'est-à-dire savoir avoir une aide publique au développement plus spécifique, où nous nous mettons ensemble autour de la table, de manière directe, avec les étudiants, avec les ONG, avec les associations, avec les entreprises, et où la France, avec ses partenaires africains, se met en situation d'agréger l'aide multilatérale, l'aide d'autres puissances européennes, pour être plus efficace.
Frédéric Maury.
Alors le président français parle d'une nouvelle manière de faire en fait dans l'aide au développement, sans forcément être très précis dans les détails. Alors en quoi ça consiste finalement ?
Alors, je crois qu'il faut reprendre la totalité de la citation que vous venez de nous faire entendre, qui est très importante. Hein. Il y a effectivement un basculement dans la relation au monde que l'AFD, l'Agence française de développement, l'ancienne caisse centrale, hein, a connu au début des années 2000 à la faveur de l'arrivée de Jean-Michel Severino. Jean-Michel Severino a impulsé un nouveau visage à l'AFD, qui a consisté à ne plus travailler dans l'ombre comme le faisait la Caisse précédemment, et puis surtout à s'ouvrir à toute une série de thématiques qui l'ont nécessairement rapproché du terrain. Au premier chef desquels, la question climatique, hein, que le président de la République a également mentionné fortement dans son discours. Alors, aujourd'hui, à la faveur de la direction générale de Rémy Rioux, il y a une nouvelle impulsion, une deuxième, qui est mise en œuvre, qui consiste à essayer de rendre l'AFD à la fois, disons, plus partenariale, à la fois vis-à-vis des autres bailleurs internationaux, donc Emmanuel Macron l'a dit, hein, par exemple dans l'Alliance Sahel, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes là avec la KfW, avec la Banque mondiale.
La KfW, ce sont les Allemands.
Voilà, les Allemands, avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, l'Union européenne. Donc il y a un côté partenarial, il faut qu'on arrive à agréger, comme l'a dit le Président, les différentes sources d'aide publique au développement. Et nous sommes une des plateformes par lesquelles va transiter cette bonne volonté et cette aide. Il y a cet aspect-là. Puis il y a un autre aspect qui est travailler davantage avec les parties prenantes des projets dans lesquels nous sommes engagés. Si par exemple on fait un barrage, s'assurer qu'on puisse mettre la totalité des parties prenantes, les populations villageoises qui vont bénéficier de l'eau, celles qui risquent peut-être d'être délocalisées à cause du barrage, celles qui vont souffrir éventuellement de la perturbation des écosystèmes, faire en sorte que dans l'instruction de nos projets, on puisse mettre tout le monde autour de la table et discuter de la meilleure manière de mettre en œuvre ce projet.
Le président parlait aussi du fait que cette aide passait beaucoup par les gouvernements et n'allait pas forcément sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que dans la nouvelle stratégie, on passe moins par les gouvernements et on essaie d'aller directement sur le terrain?
On va faire les deux. L'ambition de l'AFD, c'est que la moitié de l'encours de ses engagements soit du non-souverain, c'est-à-dire aussi bien des collectivités locales que des entreprises, et pour ce qui est des subventions, que des ONG. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde qui n'est plus vertical comme c'était le cas il y a encore une quarantaine d'années, où l'État, d'une certaine manière, faisait tout. La société civile a un rôle absolument central à jouer, tout le monde l'a compris, je crois, aujourd'hui, en particulier en Afrique, où elle est particulièrement vivante. Et donc l'idée, c'est que l'AFD soit présente auprès de tous ses partenaires, ce qui évidemment rend le dialogue à la fois plus riche et plus compliqué pour tout le monde.
Un nouveau partenariat entre les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne doit intervenir en 2020. Là, on est en plein dans vos recherches scientifiques à la chaire Énergie et Prospérité en tant que directeur de recherche au CNRS. Et donc en 2020, les pays africains en particulier ne pourront plus opposer de droits de douane aux importations européennes. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est prête à subir ce choc de compétitivité?
Alors ça va être un choc compliqué, effectivement, et derrière cet accord-là, il y a, disons, une réflexion, à mon avis, qu'il faudrait engager, qu'on a engagée à l'AFD, hein, sur la manière de faire un commerce international juste. Hein. Ce que nous poussons, je crois, de notre côté, pour ce qui concerne le continent africain, c'est de privilégier, avant tout, l'autonomisation, et en particulier la résilience du continent, vis-à-vis des chocs climatiques qu'il va recevoir. Alors, dans quelle mesure ce partenariat l'y aidera? C'est une question qui reste posée aujourd'hui. Je vous donne un exemple. J'étais en Guinée-Conakry il n'y a pas très longtemps, où j'entends qu'on me dit l'essentiel de l'avenir de la Guinée, c'est le fer et la bauxite. Et donc la Guinée doit se mettre en ordre de marche pour exporter du fer et de la bauxite. Bon. Moi, je réponds, la Guinée continue d'importer des millions de tonnes de riz chaque année pour nourrir sa population. Le riz ne va pas forcément être très abondant dans les années qui viennent à cause du dérèglement climatique. Vous savez que le delta du Mékong au Vietnam, qui est l'un des greniers à riz de la planète, va être très rapidement inondé à cause de la montée des eaux. Vous savez aussi que la fertilité des sols risque de baisser dans les décennies qui viennent à cause de l'augmentation de la température. Donc la préoccupation, je crois, majeure qu'il faut mettre en priorité, c'est l'autonomisation des populations, la sécurité alimentaire. Dans quelle mesure ce partenariat y contribue? C'est ça la question qu'il faut poser.
Mais a priori, on aurait peut-être même tendance à penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire ce partenariat entre les pays ACP et l'UE, tel qu'on le voit se dessiner, c'est plutôt l'inverse de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire on a l'impression que ce déséquilibre dont vous parlez, le fait qu'énormément de pays africains importent énormément de produits alimentaires et produisent assez peu sur place, ne va faire que se renforcer.
Alors ça dépend de la nature des investissements qui seront réalisés. Il y a aussi, et vous le savez aussi bien que moi, il y a aussi en Afrique un déficit cruel d'infrastructures, aussi bien les infrastructures vertes que les infrastructures tout court, routières par exemple. Et donc l'enjeu aussi de ce partenariat, je crois, c'est de faciliter la réalisation d'investissements utiles pour la population qui vont permettre l'éventuelle industrialisation du continent, qui est le grand événement qu'on attend pour les décennies qui viennent.
Mais alors, quand vous dites par exemple aux dirigeants guinéens, faites plutôt du riz que de la bauxite, ils vous écoutent poliment et puis ils vous disent au revoir?
Non, c'est un dialogue qui est engagé. L'AFD essaye d'avoir un dialogue constructif, de stratégie politique, de politique publique, avec un certain nombre des pays dans lesquels elle est engagée. Évidemment, le gouvernement guinéen écoute ce que dit l'AFD, mais il écoute aussi ce que dit le FMI, ce que dit la Banque mondiale. On ne prétend pas avoir le monopole de l'intelligence sur le continent africain.
Et tout le monde va dans le même sens? Le FMI, la Banque mondiale leur disent aussi faites du riz plutôt que de la bauxite?
Non, le FMI et la Banque mondiale sont plutôt favorables à, disons, une économie orientée vers l'exportation du fer et de la bauxite. C'est pour ça qu'il y a un dialogue.
Mais en même temps, vous dites industrialisation, passage obligé. Alors pour s'industrialiser, il faut du fer et de la bauxite.
Oui, mais du coup, il ne faut pas l'exporter à l'étranger. Voilà, c'est ça la question.
Il faut l'exporter vers les autres pays africains.
Vers les autres pays africains, absolument. Tout à fait. C'est ça l'enjeu. Quand j'ai dit l'industrialisation, passage obligé, ce n'est pas encore clair aujourd'hui. L'énorme point d'interrogation, c'est sur la Chine, évidemment. La question, c'est la Chine va-t-elle, d'une certaine manière, consentir à délocaliser ses usines en Afrique? D'une certaine manière, ce serait un mouvement normal au niveau planétaire, hein, sur les 60 dernières années. Mais pour que ceci puisse avoir lieu, ce qui serait tout de même une très bonne nouvelle, je crois, pour le continent africain et pour les peuples africains, il faut des infrastructures. Et c'est ça l'enjeu.
Est-ce que vous y croyez? Parce qu'aujourd'hui, ce mouvement de délocalisation des usines chinoises, il a déjà commencé largement en Asie, en fait.
Oui, hein. Absolument.
En Afrique, on a quelques exemples, mais qui restent quand même extrêmement limités. Et quand on regarde finalement la nouvelle route de la soie, ouais, l'Afrique en est quand même largement écartée, à part certaines zones, notamment l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous pensez vraiment à ce qu'il va y avoir un mouvement de délocalisation industrielle des Chinois vers l'Afrique?
Je ne suis pas devin. Tout ce que je dis, c'est que c'est une des bifurcations possibles devant laquelle nous nous trouvons. Et qu'elle aurait du sens compte tenu du fait que la raison profonde pour laquelle la Chine délocalise en Asie du Sud-Est aujourd'hui, c'est la remontée des salaires sur la côte est chinoise, hein, qui nuit à la compétitivité des produits industriels chinois, d'une part, et d'autre part, la faiblesse de la demande, pour l'instant, de l'Occident, de ces produits. Et évidemment, le même phénomène va se reproduire en Asie du Sud-Est. Il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas là-bas. Donc la question, elle se pose déjà, vous avez raison, hein, de la délocalisation en Afrique. Vous avez quand même un certain embryon d'industrialisation dans un pays comme l'Éthiopie.
C'est l'exemple qu'on donne toujours, c'est le seul.
Oui, pour l'instant, mais voyez, comme vous l'avez rappelé vous-même, la route de la soie passe aussi par l'Afrique. Le montant des investissements chinois en Afrique l'an dernier, c'était quand même 36 milliards, c'est considérable. Hein. Et après, bon, il n'y a pas que la Chine. Vous voyez, la grande question, c'est... Je ne crois pas du tout à un leapfrog, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire un saut de mouton de l'Afrique vers une économie de service. Ça, j'y crois pas une seconde.
Vous pensez que l'industrialisation est un passage obligé ?
D'un développement africain équilibré, raisonnable et résilient, ça me paraît assez clair. Même si je sais bien qu'il y a eu des sauts technologiques en Afrique, hein, l'Afrique n'est pas passée par le téléphone à fil, elle est passée directement au téléphone mobile. Je sais aussi que le mobile banking s'est créé au Kenya, et a pris de court la totalité des autres pays du monde. Donc il y a aussi des innovations technologiques en Afrique.
Oui, mais est-ce que l'Afrique n'a pas laissé passer un coche, par exemple, avec l'envolée du prix des matières premières jusqu'à 3-4 ans? Est-ce qu'il n'y a pas un coche qui a été raté, là?
Alors ça, c'est un autre enjeu, à mon avis, qui est la régulation des marchés financiers sur les matières premières. Le cours des matières premières aujourd'hui, qu'il s'agisse du pétrole, des matières minières ou des matières agricoles, n'est plus fixé, n'est plus déterminé majoritairement par l'offre et la demande réelle, spot, de ces matières premières. Il est fixé par les mouvements de capitaux sur les marchés financiers d'actifs dérivés sur ces produits. Lorsque vous avez un marché comme le cacao, en fait, la masse des capitaux qui transitent sur les marchés financiers d'actifs dérivés sur le cacao, alors qu'est-ce que c'est que ces actifs dérivés ? Par exemple, c'est des contrats de livraison à terme, des futures, vous voyez. La masse des capitaux qui transitent sur ces marchés financiers est 30 fois supérieure à la masse des capitaux qui transitent sur le marché réel de cacao. Donc, lorsque ça bouge au 29 étages supérieurs de la tour, ça fait trembler le rez-de-chaussée qui est le marché spot, voyez, à cause de relations de non-arbitrage. Lorsque les prix s'effondrent sur les actifs dérivés, ça fait s'effondrer le prix du cacao spot. Donc ça, c'est pas du tout à la main des pays africains, malheureusement, qui sont complètement dépendants de ces mouvements erratiques et en partie spéculatifs des prix des matières premières. Voilà. Et donc ça renvoie à une autre question qui intéresse la totalité de la communauté internationale, c'est comment réguler les marchés financiers sur ces produits.
Ce que vous dites, c'est que les pays africains, finalement, n'obtiennent pas le juste prix de leurs matières premières.
Ça me paraît très clair. Hein. Et ils en sont victimes, alors aujourd'hui, ils en sont victimes de manière massive pour ce qui est du pétrole. Hein. Tous les pays exportateurs de pétrole africains sont très très pénalisés par cette question. Mais ils en sont victimes également pour ce qui est du cacao. Pour un certain nombre d'autres matières premières, les prix sont en train de remonter, donc l'Afrique du Sud a un tout petit peu d'oxygène. Il n'en demeure pas moins que c'est un problème récurrent. Alors, on a commencé à réguler un tout petit peu le marché financier sur le pétrole, à cause de ce qui s'est passé en 2008. Hein, où vous vous rappelez, le baril de pétrole a fait 80, 140, 40, 60 dollars en 12 mois. Donc ça, c'est pas du tout des variations titanesques de l'offre et de la demande réelle de pétrole. Ça, c'est des mouvements spéculatifs sur les dérivés sur le pétrole. Du coup, moi, à l'époque, j'ai interrogé l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et je dis, mais pour vous, à l'OMC, vous vous sentez pas responsable de ces variations gigantesques de cours sur les matières premières. Et la tragédie, c'est que l'OMC, le périmètre d'action de l'OMC ne porte pas sur les actifs financiers. Et donc là, il y aurait une réforme qu'on pourrait engager et que pourraient pousser les pays africains, avec d'autres évidemment, pas tout seuls, qui consisterait à réintroduire les marchés financiers de dérivés sur les matières premières dans le périmètre d'action de l'OMC, de manière à réguler tout ça.
Une dernière question de Frédéric Maury pour cette première partie, une réponse courte de Gaël Giraud.
Je ne sais pas si vous allez y arriver, ouais, mais je vais juste revenir sur l'aide au développement. Aujourd'hui, pour la plupart des pays africains, l'aide au développement, ça reste c'est devenu relativement marginal dans leur financement. Par exemple, les virements ou les transferts d'argent sont beaucoup plus importants que ça. Et est-ce que vous pensez que l'aide au développement française a encore un poids, sert encore à quelque chose en Afrique ?
Oui, la réponse est oui, définitivement.
On continue cette émission dans 3 minutes après un flash d'actualité. Rendez-vous avec Gaël Giraud, l'économiste en chef de l'Agence française de développement.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qui reçoit Gaël Giraud, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Gaël Giraud, l'économiste en chef de l'Agence française de développement. Au cours de la première partie de cette émission, avec vous Gaël Giraud, nous avons d'abord évoqué le discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou, le rôle de l'Agence française de développement dans cette Afrique qui essaye de se développer, qui, on l'a vu, a raté un peu le coche de la hausse des cours des matières premières au cours des dernières années. Nous avons parlé de cette potentielle industrialisation du continent. Mais il y a une nouvelle génération d'économistes en Afrique, de penseurs qui émergent. Dans son livre Afrotopia, l'économiste Felwine Sarr, par exemple, il conteste la validité même de la notion de développement pour les pays africains, ou la pertinence du produit intérieur brut comme indicateur incontournable de la richesse. Vous en pensez quoi, vous ?
Je pense qu'il a en grande partie raison, au sens où le PIB ou le PNB, c'est un très très mauvais indicateur. Si vous faites un accident sur la route de Mundu vers Sahar, vous augmentez le PIB tchadien. Et donc, ce n'est pas une bonne manière d'augmenter le PIB. Le PIB, en fait, est un indicateur agrégé qui a été construit dans les années 30 en Europe de l'Ouest, essentiellement pour mesurer l'aptitude de nos voisins à nous faire la guerre. C'est pour ça, par exemple, que le travail domestique féminin n'est pas inclus dans le PIB. Donc, ce n'est pas un bon indicateur. Il y a, vous connaissez certainement la commission Sen-Stiglitz, hein, Amartya Sen, Joseph Stiglitz.
Deux prix Nobel.
Deux prix Nobel, voilà, en 2010, qui a réfléchi sur les indicateurs alternatifs au PIB. Il y en a plus d'une centaine. Donc, il y a aujourd'hui pléthore d'alternatives possibles. Une alternative très simple, qui est aujourd'hui connue de tous et qui est pilotée par les Nations Unies, c'est l'IDH, hein, l'indice de développement humain, qui compte trois piliers. Le premier, c'est le revenu par tête. Le deuxième, c'est l'espérance de vie à la naissance. Le troisième, c'est le niveau éducatif, en gros. Ça, déjà, c'est un indicateur beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant que le PIB. La grande question, si on voulait changer d'indicateur, c'est de le faire tous ensemble. Parce que cet indicateur, malheureusement, nous sert à nous comparer les uns les autres, en permanence. Et donc, si un pays tout seul se met à changer d'indicateur agrégé, il n'est plus comparable avec ses voisins, et donc il n'arrive plus à dialoguer de la même manière dans le concert international. Il y a un exemple, excusez-moi, c'est le Bhoutan. Le Bhoutan a troqué le bonheur national brut contre le produit national brut, mais le Bhoutan, c'est tout petit, et la communauté internationale ne s'intéresse pas beaucoup au Bhoutan. Donc ça ne porte pas à conséquence. Mais si demain matin, le Cameroun changeait d'indicateur agrégé, ça poserait problème pour les comparaisons. Donc il faudrait, d'une certaine manière, que le G20, tous ensemble, décident de changer pour le même indicateur alternatif.
C'est pour ça qu'il y a quelques années, vous parliez du mirage de la croissance à l'infini. C'est-à-dire, vous pensez que finalement, d'abord, que ce n'est pas un bon indicateur, cette croissance du PIB, et ensuite que finalement, on est omnibulé par cet indicateur.
Oui, absolument. Alors, sauf à dématérialiser complètement le PIB. Il est impossible que le PIB puisse continuer de croître infiniment.
Dématérialiser, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire réussir à faire que le PIB ne gonfle que via des bulles spéculatives financières. Hein. Prenons un exemple. Si dans la ville, le centre-ville de Paris, comme c'est le cas aujourd'hui, le prix des maisons est multiplié par 2, et si cette maison se vend et s'achète dans l'année, alors ça va augmenter le PIB. Mais vous voyez bien que la réalité économique, la valeur économique de cette maison n'a pas bougé. Ce sont juste des opérations spéculatives qui font gonfler le prix. Alors, une partie du PIB aujourd'hui est déformée partiellement par la bulle immobilière et la bulle financière. On a une bulle financière sur le marché
financier. Ça, c'est surtout dans les pays occidentaux, non ?
Surtout dans les pays occidentaux, absolument. Et donc, sauf à réussir à gonfler le PIB artificiellement uniquement via les bulles spéculatives, le PIB dépend de la réalité physique de ce que nous faisons.
Alors justement, quand vous dites ça, est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle, tout ce qui arrive, qu'on voit déjà arriver, ça ne va pas profondément changer votre propos ?
Je ne suis pas sûr du tout. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup de mythologie qui tourne autour de cette idée. Hein, mais si vous discutez avec des chercheurs qui travaillent dessus, comme je le fais au CNRS, ils vous expliquent que la fameuse grande bifurcation que certains rêvent n'arrivera jamais. Aucun ordinateur n'aura jamais l'intelligence humaine, ça c'est un mythe. Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'on arrive aujourd'hui à produire des logiciels qui ont une capacité d'apprentissage selon les normes qu'on leur a données, qui est phénoménale, hein, et qui arrive à traiter une quantité de données absolument extraordinaire, mais on n'aura jamais
Et des robots qui peuvent remplacer des hommes.
Oui, qui peuvent remplacer partiellement des hommes, mais qui ne peuvent pas remplacer l'humanité, ce sont deux choses différentes. Deuxièmement, et ça c'est absolument fondamental, une machine, pour fonctionner, ça a besoin d'énergie et de minerais. Or, de l'énergie et des minerais, on n'en a pas une quantité infinie. Il y a un nouveau rapport au Club de Rome qui a été rendu en 2015, qui fait état de la raréfaction progressive des minerais sur la totalité de la planète. J'ai travaillé moi-même dessus avec un géophysicien qui s'appelle Olivier Vidal. Ce qu'on a montré, c'est que le pic d'extraction du cuivre devrait intervenir au niveau mondial avant 2060. Le pic d'extraction du phosphate, au passage, hein, une autre information qui intéresse beaucoup l'Afrique, devrait également intervenir avant 2060. Donc je ne vois pas très bien comment on va robotiser la totalité de la planète dans un contexte où on a de moins en moins d'énergie disponible et de moins en moins de minerais.
Alors, revenons un instant, Gaël Giraud, sur le discours de Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, le président français, Emmanuel Macron, a redit l'importance qu'il accordait à la lutte contre le changement climatique.
La lutte contre le réchauffement climatique doit être le terrain de l'innovation, de l'entrepreneuriat, d'un défi commun où nous devons réussir ensemble, où les formations doivent se multiplier, où les investissements nouveaux doivent se multiplier. Ça n'est pas simplement quelque chose que vous allez avoir à subir comme la planète entière. Non, c'est un défi dans lequel nous devons ensemble réussir. C'est pour cela que je veux que l'Afrique soit un lieu d'innovation radicale, de financement de ces innovations radicales dans la lutte contre le réchauffement climatique, et que l'Afrique prenne toute sa part, non seulement le 12 décembre prochain à Paris, mais dans le cadre du pacte mondial pour l'environnement que la France a lancé et qui doit être porté dans le cadre de l'ONU.
Frédéric Maury.
Alors vous disiez tout à l'heure que le PIB c'est un mauvais indicateur. Si on veut limiter le réchauffement climatique, en général, est-ce qu'il faut condamner la croissance économique ou en tout cas trouver une autre forme de croissance?
Oui, c'est une bonne question. En fait, vous comprenez assez facilement que si tout le monde se met à vouloir continuer d'augmenter le PIB sans qu'il y ait de transition énergétique, et donc dans un contexte où le PIB reste très corrélé aux émissions de CO2, alors on va vers la catastrophe.
Vous dites si, mais c'est ce qui se passe, c'est pas vraiment ainsi.
Pas complètement quand même, on a pris des engagements très très forts à l'accord de Paris, on va reprendre des engagements très forts, je le pense, lors du sommet du 12 décembre, hein, du sommet Emmanuel Macron.
Voilà. Oui. À Paris, enfin à Boulogne,
voilà, à Paris,
Boulogne-Billancourt, tout près des studios des RFI.
Le point central, je crois, c'est qu'il faut permettre à un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui dans une situation désespérée de continuer à croître parce que ça favorise vraiment l'amélioration des conditions de vie.
Notamment les pays africains.
Mais ceci n'est pas compatible avec le fait que d'autres pays très riches, la France par exemple, ou d'autres, continuent de croître indéfiniment. Donc là, il y a un juste partage de la croissance possible, compatible avec les contraintes écologiques qui sont les nôtres, qui doit pouvoir s'opérer. Ça devrait être ça, en fait, le dialogue profond que la communauté internationale devrait engager avec elle-même. Qui va pouvoir continuer à croître de manière à sortir de la pauvreté, hein ? Sur le continent africain, on a encore aujourd'hui 33% de la population qui vit avec moins de 1,90$ par jour. En Inde, par comparaison, hein, Rémi Rioux prend souvent la comparaison de l'Inde et de l'Afrique.
Rémi Rioux, votre patron, le directeur général de l'AFD.
Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes et c'est en gros 2300 milliards de dollars de PIB. L'Inde, c'est la même chose. 1,2 milliard de personnes, 2300 milliards de dollars de PIB. En Inde, la proportion des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1,90$ par jour, c'est 22% de la population. En Afrique, 33%. Donc il y a un vrai partage des rôles à opérer, dans un contexte où tout le monde sait très bien que l'Afrique, c'est 4% des émissions de CO2 sur la planète. Donc l'Afrique n'est strictement pour rien dans le dérèglement climatique, c'est pas son sujet. Le grand sujet qui est devant elle aujourd'hui, et c'est ce que disait d'ailleurs le président Macron, c'est l'adaptation. Comment s'adapter à un phénomène qui est déjà engagé, hein, l'érosion des sols a déjà commencé, la montée des eaux a déjà commencé, le golfe de Guinée, le littoral du golfe de Guinée commence déjà à être détruit en partie par la montée des eaux, etc. Comment faire de ceci, non pas une catastrophe, mais une opportunité pour le continent africain?
Vous dites qu'il faut réduire le niveau de vie des pays développés. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous, nous, ici, dans ce studio, de ce côté-là du micro, on doit réduire notre niveau de vie?
Absolument, pour permettre aux Africains de continuer de croître. Concrètement, c'est la transition énergétique. Comment réussir à avoir de la prospérité, y compris en Occident, sans émettre davantage de CO2? Donc comment réussir à découpler nos activités humaines des émissions? Et donc, par exemple, transformer la totalité de notre mix énergétique en un mix énergétique renouvelable. Aujourd'hui, au niveau mondial, le bouquet énergétique, c'est 80% d'énergie fossile, d'hydrocarbures fossiles. Donc, dans un pays comme la France, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais au niveau mondial, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est quasiment négligeable, malheureusement. Hein. Donc, il y a un énorme effort à faire, en particulier du côté occidental, en particulier aussi du côté de la Chine, bien évidemment, hein, qui est le premier pollueur du monde aujourd'hui, de manière à permettre à l'Afrique de continuer de croître dans un contexte où elle-même pollue très très peu.
Alors, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est votre grand combat. Comment finance-t-on réellement cette lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en développement? Il y a eu les accords de Paris, auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, qui ont décidé qu'à partir de 2020, on devrait consacrer 100 milliards de dollars par an à ce combat. On va les avoir?
Oui, très certainement, on va les avoir. Et il y a plein d'autres solutions de financement qui sont à la discussion aujourd'hui. Hein. Je pense par exemple à favoriser le crédit bancaire privé, soit par exemple à travers des garanties publiques qui seraient accordées par un certain nombre de pays, qui du coup porteraient le risque de l'investissement dans une infrastructure verte à la place de l'investisseur privé, soit à travers d'autres procédés, par exemple la réécriture des normes comptables ou des règles prudentielles auxquelles les banques sont assujetties. Si vous commencez à mettre, par exemple, un bonus-malus en termes d'exigence de capital sur les banques à chaque fois qu'elles accordent un crédit vert ou un crédit brun, alors vous mettez un bonus si c'est un crédit vert, vous mettez un malus si c'est un crédit brun. Si on fait ça, si demain matin on fait ça...
Un crédit brun, c'est un crédit qui...
Un crédit brun, par exemple,
fossile, c'est
un crédit fossile.
Voilà,
un crédit,
le charbon, par exemple.
Le charbon, par exemple, hein, dont la production, malheureusement, continue de croître aujourd'hui au niveau planétaire. Hein. Si vous faites ça, alors les banques vont très très vite s'adapter et ne vont financer que les crédits verts. Oui. Et ça, c'est une manière extrêmement puissante de trouver des financements intelligents pour favoriser la transition énergétique.
Frédéric Maury.
Alors, on quitte un peu le champ climatique pour aller vers justement les marchés financiers, les banques. Vous mentionnez le cas des banques à l'instant. L'un des grands économistes français, Michel Aglietta, estimait il y a quelques jours que l'envolée des marchés boursiers était irrationnelle et qu'on était à la veille d'une nouvelle crise financière. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Et puis, est-ce que vous pensez que par rapport à la crise de 2008, toutes les leçons ont été tirées?
Ça fait deux questions.
Oui, ça fait deux questions. La réponse est oui pour Michel Aglietta, que je connais bien, qui est un ami. Je serai un tout petit peu plus précis. Alors, prenons un exemple comme l'indice du Dow Jones, indice financier majeur pour la planète. Il est aujourd'hui quasiment deux fois supérieur au niveau qu'il avait atteint juste avant la crise de 2007. Dans le même temps, on ne peut pas dire du tout que l'économie mondiale est gonflée, soit été multipliée par deux. Elle vient tout juste, en vérité, de tourner maintenant la page de la récession ou de la déflation dans laquelle elle a été plongée à cause de la crise financière. Donc il y a un découplage de nouveau entre les indices financiers d'un côté et l'économie réelle de l'autre. Ce découplage sera forcément suivi par un nouveau crack et un rattrapage de l'économie financière par l'économie réelle. Voilà. Quand celui-ci va-t-il avoir lieu? Personne n'en sait rien. Mais je constate par exemple que les niveaux d'endettement privé, qui sont l'indicateur fondamental qu'il faut regarder pour anticiper l'avenue d'une prochaine crise, les niveaux d'endettement privé ont retrouvé l'altitude qui était les leurs en 2006-2007. Hein. Pour donner un exemple, hein, pour la zone euro, l'endettement privé de la zone euro, c'est 140% du PIB de la zone euro. L'endettement public, c'est 100%. Donc, si vous croyez qu'il faut se désendetter le plus rapidement possible, il faut commencer par ceux qui sont les plus endettés, c'est-à-dire le secteur privé. Parce que c'est ça qui plombe l'investissement. Et alors, on pourrait dire la même chose en Afrique. Au fond, évidemment, il y a une question de soutenabilité de la dette publique en Afrique. La question que je pose, moi, c'est est-ce que c'est aujourd'hui la question majeure à se poser? Évidemment, de manière raisonnable. Hein, il ne s'agit pas du tout de réengager des dynamiques d'endettement complètement déraisonnables. Mais est-ce que c'est l'indicateur majeur aujourd'hui dans un contexte où l'investissement public est très largement défaillant en Afrique? Hein, l'investissement public, la dépense publique en Afrique, c'est 14% du PIB. Hein, donc c'est très très insuffisant, notamment pour amorcer ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le financement des infrastructures nécessaires à l'industrialisation. Donc est-ce que l'envolée de la dette publique d'un certain nombre de pays, c'est ça la crainte majeure, ou est-ce que c'est l'absence d'investissement? Est-ce que c'est l'absence de préparation à la résilience du continent au dérèglement climatique? Encore un mot sur cette question de dette publique, parce que je crois que c'est important.
J'allais vous en parler.
Le scandale des Paradise Papers,
ouais,
dit aussi quelque chose de, disons, la contrainte dans laquelle se trouvent les États africains. Une partie des recettes fiscales dont ces États devraient pouvoir bénéficier va se localiser dans les paradis fiscaux. Donc, si on veut vraiment aider l'Afrique à se développer, il y a un enjeu fondamental qui est à mettre fin au scandale des paradis fiscaux et à permettre aux États africains de récupérer la base fiscale légitime qui est la leur pour pouvoir financer le développement de l'Afrique.
Mmh. Sans nier l'importance évidemment de l'évasion fiscale, il y a aussi une problématique de collecte des impôts en général en Afrique, auprès du secteur informel. C'est pas uniquement les multinationales, c'est aussi finalement un impôt.
Bien sûr, vous avez
tout à fait
raison.
Je crois qu'on est à moins une collecte fiscale qui est moins de 10% du PIB. Mais,
bien sûr, il y a une faiblesse de l'administration publique à laquelle d'ailleurs nous essayons de remédier. Hein,
vous, AFD?
Oui, l'AFD est très engagée dans le renforcement de capacité des administrations publiques, et en particulier des administrations fiscales, puisque l'AFD vient de recevoir depuis un an et demi la compétence sur la question de la gouvernance. Ça fait partie aujourd'hui de ses attributions, d'aider les pays d'Afrique, nos pays partenaires, à récupérer une base fiscale légitime et avoir les moyens d'une administration fiscale capable de lever l'impôt.
L'économie, dites-vous, est trop financiarisée, c'est ce qu'on vient d'entendre, pas l'Afrique. Et ça lui a permis d'échapper en partie à la crise de 2008. Est-ce qu'il faut qu'elle tourne le dos à cette finance mondiale ?
Non, pas du tout. Non, je ne crois pas du tout qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. La finance peut rendre d'immenses services, en particulier en termes de financement. Ensuite, toute l'Afrique n'a pas tourné le dos à la finance. Hein. L'Afrique du Sud, par exemple, est un pays très financiarisé. Alors, la grande question, c'est comment réguler les marchés financiers de manière qu'ils puissent rendre les services qu'ils ont à rendre, à savoir financer l'économie réelle. Aujourd'hui, sur l'ensemble des transactions financières qui ont lieu sur les marchés internationaux, moins de 10% de ces transactions concernent l'économie réelle. Donc c'est ça à quoi il faut remédier. Et si on y arrive, alors l'Afrique a un rôle absolument central à jouer pour la sphère financière dans les années qui viennent.
Mais j'ai l'impression que vous vivez un peu dans un monde idéal. Parce que, regardons, nous avons Donald Trump à la Maison-Blanche qui veut déréguler à tout va, qui nomme à la tête des agences publiques américaines des gens qui sont acquis à cette cause dérégulatrice. Vous avez un président Macron en France qui veut adapter l'économie française à la mondialisation. La mondialisation, c'est la mondialisation financière. On est à rebours de tout ce que vous souhaitez.
Non, je crois pas du tout. Effectivement, aux États-Unis, il y a aujourd'hui une phase de régression qui va durer 4 ans et qui demande à la planète entière beaucoup de patience. Je ne crois pas du tout que l'objet de la France aujourd'hui, ce soit dans une finance mondiale dérégulée. Au contraire, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une finance qui rende vraiment des services. Après, il y a un débat aujourd'hui qui est engagé sur l'ensemble de la communauté internationale sur la manière dont on régule. Parce qu'il y a aussi de la mauvaise régulation. Donc, je veux bien, on peut rentrer dans ce débat technique, si vous voulez, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne régulation financière. Mais je ne crois pas que ce que je dise là soit caractéristique d'un monde de bisounours. Je pense que les financiers eux-mêmes ont très bien compris qu'il faut réréguler la finance. Alors, mais vous me posiez la question, je n'avais pas répondu à la question tout à l'heure.
Tout à fait, justement, 2008.
Voilà, 2008. Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons ? On n'a pas tiré toutes les leçons de 2008.
Je donne parce que ce que vous dites là, on aurait pu le dire il y a 10 ans.
Hein, tout à fait, je l'ai dit moi-même il y a 10 ans. Donc, voilà, mais vous savez, la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Un exemple qui témoigne du fait qu'on n'a pas tiré toutes les leçons de la crise de 2008, c'est qu'aux États-Unis, on recommence à faire de la dette privée auprès de ménages pauvres, gagés non plus sur leur maison, alors quelquefois encore sur la maison, mais maintenant sur la voiture, avec un argument de vente qui est imparable, qui est ils ont perdu leur maison parce qu'ils n'étaient pas capables de rembourser leur dette, mais ils vont tout faire pour la rembourser parce que s'ils perdent leur voiture, ils vont devoir dormir dehors, puisque après la maison, ils ont dormi dans la voiture. Vous voyez. Alors c'est ce genre d'argument de vente qu'on entend aujourd'hui, qui est absolument tragique, et qui plus est, un certain nombre de financiers américains recommencent à titriser leur mauvaise créance. Et vous savez très bien que c'est ce phénomène de la titrisation qui permet de transformer une créance en un actif financier échangeable sur les marchés internationaux, qui a permis à la crise qui était purement américaine, qui est une crise hypothécaire américaine, de se diffuser sur l'ensemble de la planète. Donc là, c'est la preuve du fait qu'on n'a pas tiré toutes les leçons. En même temps, les discussions que j'ai, moi, avec les financiers un peu partout sur la planète montrent que tout le monde est très conscient de cette difficulté. Il y a quand même des progrès considérables qui ont été faits autour, par exemple, de la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, autour de la régulation des actifs financiers sur le pétrole. On a les outils pour le faire.
Pourtant, en 2013, Gaël Giraud, vous disiez que la réforme bancaire française était très timide, beaucoup trop timide. Cette séparation entre les banques d'investissement et les banques de dépôt n'était pas assez forte, on n'allait pas assez loin. Il semble que vous ayez changé d'avis, là.
Non, je n'ai pas changé d'avis. Le commissaire européen Michel Barnier a fait une proposition qui était un peu plus disante que la loi française et que la loi allemande. Elle n'a pas été adoptée par le Parlement européen et le débat continue aujourd'hui.
Gaël Giraud est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Gaël Giraud, le chef économiste, l'économiste en chef de l'Agence française de développement. Une question de Frédéric Maury.
Oui, il y a quelques années aussi, vous parliez des inégalités salariales. Alors c'est un sujet intéressant parce que tout à l'heure, vous nous disiez il faut que finalement les pays occidentaux réduisent leur croissance, en tout cas cherchent moins à faire moins de croissance pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en même temps, quand on perçoit ça, quand on est français, quand on est européen, quand on perçoit ça, on a l'impression qu'on est déjà précarisé, c'est assez difficile pour beaucoup de gens de vivre en France aujourd'hui, et qu'on va nous demander finalement de vivre avec encore moins. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, ou est-ce que vous voulez dire c'est que finalement il faut que les gens, vraiment les plus riches, fassent l'essentiel de l'effort ?
Alors, un petit peu la deuxième option, mais en fait je crois qu'il faut replacer le débat dans son véritable contexte. Il faut comprendre que c'est pas forcément moins de croissance partout, et pas en Afrique, je l'ai déjà dit, mais c'est mieux de croissance. C'est-à-dire, la question c'est, la croissance du PIB, on l'a déjà dit tout à l'heure, n'est pas le bon thermomètre. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à assurer plus de prospérité à tout le monde, dans un contexte écologiquement très contraint ? Ça passe certainement par la réduction des inégalités. Parce que aujourd'hui, ce sont les plus riches qui polluent, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Vous savez que, en gros, les 10% les plus riches de la planète sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre sur le globe. Les 50% les plus pauvres de la planète sont responsables de 10% des émissions. Donc, il n'y a pas photo. L'essentiel de l'effort doit être porté par les 10%. Ces 10%-là, comment vont-ils faire? Il faut qu'ils apprennent une certaine forme de sobriété joyeuse, si je puis dire, qui consiste à polluer beaucoup moins tout en continuant d'être heureux de vivre. Vous voyez, c'est ça la question.
Oui, mais alors, comment ce discours peut tenir dans une société où finalement on voit une partie d'élite et des gens aisés, ils ne vivent pas vraiment dans la sobriété?
Pour l'instant, il y a encore d'énormes marges de progression pour tout le monde, effectivement, c'est vrai. Maintenant, je suis convaincu qu'on va y arriver, sinon, de toute façon, on va à la catastrophe. Et ça, les élites l'ont bien compris également. Hein.
Donc, en matière d'inégalité, il y en a une autre qui est très importante, c'est l'inégalité homme-femme. Et lors de son passage à Ouagadougou, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessaire éducation que doivent recevoir les jeunes filles dans les pays africains. On l'écoute.
Nous devons bâtir une école qui libère les esprits et non qui les enferme. C'est pourquoi l'éducation sera la priorité absolue du nouveau partenariat que je vous propose. Je serai aux côtés de tous les chefs d'État et de gouvernement africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles. Je défendrai leur choix et je demanderai à l'Agence française de développement de soutenir en priorité les programmes visant à la scolarisation des jeunes filles. Je fixerai à nos ambassades l'objectif d'attribuer des bourses d'études en France en priorité à des jeunes filles. N'ayez pas peur, je n'ai pas dit qu'il n'y en aura que pour les jeunes filles.
C'est important, cette priorité donnée à l'Agence française de développement et à la politique française de développement pour les jeunes filles?
Je crois que c'est fondamental parce que, au fond, toutes les expériences de développement qu'on a pu tenter depuis près d'un demi-siècle ont souvent été couronnées de succès grâce aux femmes. Je prends quelques exemples. Toutes les opérations de microfinance. Lorsque vous les confiez à un groupement de femmes qui est responsable de la gestion du budget, ça marche beaucoup, beaucoup mieux en moyenne que lorsque vous les confiez à un groupement d'hommes.
En même temps, tous les gens qui travaillent sur la microfinance disent que ça ne fait pas avancer grand-chose.
Ça c'est un autre sujet. Il y a un débat aujourd'hui qui est engagé sur l'utilité profonde de la microfinance, sur lequel, à mon avis, moi je suis pas du tout, je suis beaucoup moins sceptique qu'un certain nombre d'économistes en chambre sur la microfinance, que j'ai vu fonctionner au Tchad, marcher très très bien. Vous faites des petites tontines avec de la microfinance, ça marche très très bien. La question c'est, il ne faut pas que la microfinance devienne un outil de spéculation privée. Les suicides en cascade qu'on a vus en Inde à cause de paysans indiens qui étaient surendettés par des petits projets de microfinance sont dus au fait que le privé s'en est mêlé et a commencé à exiger de nouveau des taux d'intérêt exorbitants à des paysans qui étaient déjà endettés.
C'est-à-dire le privé, vous voulez dire les entrepreneurs privés
qui détiennent les banques privées.
Microfinance.
Il faut que la microfinance reste entre les mains des ONG qui font un boulot absolument formidable sur le terrain.
Revenons aux jeunes filles.
Alors, les jeunes filles, c'est fondamental parce que le développement de la société passe par celui de la femme. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce que montrent toutes nos expériences en Afrique en particulier, mais pas seulement en Afrique. Et donc là, il y a un enjeu absolument formidable. Je crois que le président, le chef de l'État français est un peu le premier à mettre ça sur la table de manière aussi forte. Et donc pour nous, ça nous oblige. Hein. On va évidemment se mettre d'équerre pour rendre ça très concret. On a déjà une espèce d'objectif pour nous à l'Agence française de développement, hein, qui est que, en gros, la moitié, si possible davantage, de nos projets, de nos encours, soit à co-bénéfice favorable pour la réduction des inégalités de genre entre hommes et femmes.
Vous allez faire la discrimination positive dans vos financements?
On va essayer de faire en sorte que la totalité de nos financements, le plus grand nombre d'entre eux en tout cas, ait des retombées positives pour la promotion des femmes dans les pays où nous intervenons.
Alors, l'absence de formation des jeunes filles, obstacle au développement, c'est un des problèmes qu'a repéré l'économiste que vous connaissez bien, Esther Duflo, qu'on présente souvent comme nobilisable. Selon Esther Duflo, c'est en éduquant et en formant les jeunes filles qu'on pourra lutter efficacement contre le sous-développement. C'est un point de vue que vous partagez?
Oui, complètement. Je ne partage pas forcément toutes les méthodes préconisées par Esther Duflo, mais je partage complètement les conclusions. Les méthodes, si vous voulez, c'est, on pourrait dire, une certaine forme de terrorisme intellectuel lié à la mise en œuvre des échantillonnages aléatoires. Hein. Esther Duflo aura certainement un jour le prix Nobel pour sa méthode qu'elle a proposée, qu'elle a diffusée à partir du MIT, qui consiste à tester un projet de développement. Admettons, vous voulez savoir si il vaut mieux, pour que les jeunes filles justement aillent davantage à l'école, est-ce qu'il vaut mieux leur distribuer des médicaments vermifuges, ou bien est-ce qu'il vaut mieux leur donner des livres gratuitement? Vous posez cette question. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un recensement complet de la population, vous allez opérer un tirage aléatoire d'un échantillon test à qui vous allez donner des médicaments vermifuges, un tirage aléatoire d'un échantillon test à qui vous allez donner des livres, et un tirage aléatoire d'un échantillon test témoin à qui vous n'allez rien donner. Et comme le tirage est vraiment aléatoire, vous êtes certain que les différences d'évolution de la scolarisation des jeunes filles que vous allez observer dans vos différents échantillons seront vraiment dues aux différences de traitement. Donc vous voyez, ce sont des méthodes en fait très bien connues de la pharmacologie, par exemple, ou de la médecine, et dont Esther a montré qu'on pouvait, dans un certain nombre de cas, les utiliser pour tester des opérations sur des humains. Voilà. La grande question épistémologique qui est posée, je crois, c'est... La question de la méthode, oui. Est-ce que ça nous permet d'en tirer des conclusions universelles? Et là, c'est très difficile parce que si vous faites la même opération, d'échantillonnage aléatoire, dans deux zones différentes, admettons que vous en faites une au Nord Cameroun et au Sud Cameroun, en même temps, ça vous donne des résultats différents. Si vous faites la même opération au même endroit à deux années d'intervalle, ça vous donne des résultats différents. Donc ce que vous montrent ces expérimentations, c'est à tel endroit, à telle époque, voilà ce qui a le mieux marché.
L'objectif, c'est malgré tout de provoquer un déclic qui permette aux jeunes filles d'être éduquées, parce que c'est par là que passe le développement.
Bien évidemment. Et nous, ce qu'on a observé à l'Agence française de développement, c'est que le mot d'ordre qui a été donné par l'objectif du développement du millénaire, au début du siècle, qui était, on va essayer de scolariser tout le monde au niveau du primaire, au moins, en fait, il a été en partie couronné de succès, mais en partie seulement, parce que on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de mettre les enfants dans une classe pour qu'ils apprennent. Donc le taux de scolarisation a effectivement augmenté beaucoup en Afrique, pour l'école primaire, mais ça ne veut pas dire que l'acquisition du savoir de l'école primaire a beaucoup augmenté. Donc le point sur lequel nous essayons de mettre l'accent à l'Agence française de développement, c'est la qualité de l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait en face des jeunes filles que vous allez mettre à l'école des instituteurs formés, capables vraiment de tenir la classe? Et ça, c'est beaucoup plus exigeant que de vérifier que tout le monde va à l'école.
Merci Gaël Giraud d'avoir accepté d'être le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette émission est malheureusement terminée, mais les auditeurs peuvent la retrouver sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. Également des extraits de cet entretien dans le magazine papier Jeune Afrique, Frédéric Maury. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.